Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Gagner de l'argent en en dépensant, c'est possible grâce au cashback. Le principe est simple, vous effectuez des achats en ligne et vous touchez une commission proportionnelle au montant dépensé sur Internet. Importé des États-Unis, le concept est séduisant, mais est-il vraiment fiable? C'est l'enquête de la semaine. Les fleurs ont une signification avec leur propre langage symbolique, espèce, couleur ou nombre. Comment ne pas se tromper lorsque l'on veut offrir des fleurs à sa bien-aimée, à sa mère, à un ami ou déclarer sa flamme en toute discrétion? C'est la question de la semaine. Facile, économique et rapide à préparer, les quiches ont tout bon. Alors comment réussir comme personne l'authentique et traditionnelle quiche lorraine? Et puis comment réinventer ces tartes salées avec audace et gaieté? Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, samedi matin rime avec nous voilà bien. Et oui, nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 10h sur RTL. Merci pour votre fidélité. Ensemble pour consommer mieux, dépenser moins et se régaler. C'est pas réjouissant tout ça? Allez, chaud devant, ça commence tout de suite. Hervic Habibo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs, dont le numéro de février est actuellement en kiosque. On va parler avec vous du cashback. Alors, cashback, ça veut dire retour d'argent en français. Concrètement, c'est quoi le principe et ça s'adresse surtout à qui?
Le principe est le suivant. Les plateformes de cashback s'engagent à rembourser au client une partie de la somme que ce dernier a dépensée pour un achat. En fait, les services de cashback sont des apporteurs d'affaires. Ils amènent des clients aux enseignes et marques avec lesquelles ils ont noué des partenariats et ils sont rétribués pour chaque achat effectué par leur intermédiaire.
D'accord.
Ensuite, ils reversent une partie de ces commissions à leurs utilisateurs. Alors, pour les clients, le niveau de cashback est en général exprimé en pourcentage. C'est entre 3 et 5% en moyenne, mais ponctuellement, ça peut passer à 15, 30, voire 40%. Qui peut en profiter? En fait, tout le monde, toute personne qui dispose d'une carte bancaire.
D'accord. C'est marrant parce que moi, ça me fait flipper le cashback. On va y revenir, mais dès que je vois, on vous propose de recevoir du cashback, je me demande si je ne vais pas me faire arnaquer. En fait, c'est une nouvelle façon de consommer, quoi. C'est un concept qui vient, je le disais, des États-Unis.
Oui, c'est surtout une technique marketing qui permet à un marchand de fidéliser des clients.
Oui.
Le cashback est né dans les années 70 aux États-Unis. Il est très populaire, comme dans la plupart des pays anglo-saxons, au Canada, en Australie ou au Royaume-Uni. Il s'est naturellement propagé sur Internet au fur et à mesure du développement du commerce en ligne. En France, c'est qu'au détour des années 2000 qu'il a commencé à apparaître timidement pour s'imposer aujourd'hui. Mais c'est vrai que pendant longtemps, les gens ont été extrêmement méfiants.
Bon, bah, je fais partie de ceux qui le sont restés. Ça fonctionne pour tous les produits et tous les services?
Oui, aucun produit ou service n'y échappe. Hein. Vêtements, accessoires, high-tech, jouets, location de voiture, voyage. Bah, tout dépend des partenariats qui sont passés entre les plateformes de cashback et les enseignes. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que les banques s'y sont mises aussi relativement récemment, puisque tout ou presque propose des systèmes de cashback. La Société Générale, le Crédit Lyonnais ou Crédit Agricole, par exemple, ont passé des partenariats avec des centaines d'enseignes, chaque dépense en carte impliquant un retour d'argent qui vient alimenter une cagnotte.
Voilà, c'est vrai, c'est quelque chose que l'on peut suivre avec assiduité. Je dirais, ça demande quand même un engagement de la part du consommateur hein, quand il s'agit de la banque, parce que c'est un partenariat avec certains commerces et pas d'autres. Donc en fait, ça nous dirige un petit peu dans notre façon de consommer. Bon, concrètement, comment on fait pour en bénéficier? Parce que les banques, j'ai bien compris que ça tombe, enfin moi, dans ma banque, ça tombe tout seul, hein, c'est-à-dire que si par chance, je vais dans un commerce qui a un partenariat avec ma banque, effectivement, tout à coup, je réalise que j'ai quelques euros de cashback. Mais sinon, en fait, il faut que je m'inscrive sur un site. Comment ça fonctionne?
Oui, alors pour les banques dont nous venons de parler, il y a des programmes spécifiques auxquels les clients doivent adhérer au préalable, hein, via une inscription. Il s'appelle City Store chez LCL, Malicea au Crédit Agricole, ou simplement Cashback Société Générale à la Société Générale. Okay. Sinon, il faut s'inscrire auprès d'un service de cashback, c'est-à-dire télécharger l'application mobile ou bien sûr ordinateur, installer l'extension pour son navigateur Internet. Et le cas échéant, associer à son compte la carte bancaire qui sera utilisée pour les achats. En général, c'est toujours le cas, hein, faut toujours le faire. Les principaux acteurs, ils sont trois, ils représentent environ 95% du chiffre d'affaires de ce marché. Ils s'appellent iGraal, Poulpeo et eBay Club. Mais il en existe bien d'autres en France, hein, Kitties, Capital Koala ou encore Joco, pour n'en citer que quelques-uns.
Mais en fait, quand on dit cashback, je récupère de l'argent ou je récupère un bon d'achat?
Les sommes remboursées viennent alimenter une cagnotte à partir d'un certain montant prédéfini par les parler de la carte de cashback qui peut être 10, 15 ou 20 euros, un virement sur un compte bancaire est possible. Attention toutefois, le gain n'est pas instantané. Hein. Le cashback doit d'abord être validé par le commerçant. Et cette validation, elle peut être effective qu'à l'issue du délai de rétractation de 14 jours qui est propre au commerce en ligne. Vous savez, quand vous achetez en ligne, vous avez un délai de rétractation de 14 jours. Si vous décidez que finalement, l'article que vous avez acheté ne vous plaît pas, vous le renvoyez. Donc, dans ce cas-là, on vous rembourse et vous ne l'avez pas acheté. Donc, ce délai, il peut être aussi rallongé par la seule volonté d'une enseigne. Hein. Et donc, le commerçant doit s'assurer que vous avez bien acheté l'article qui fait l'objet du cashback. Concrètement, il faut donc attendre entre 1 et 3 mois avant de disposer des sommes gagnées.
Voilà, on verra quelles sommes on peut gagner dans un instant. Encore des questions à vous poser, évidemment, Hervé Cabibot. Merci d'être avec nous. On marque une courte pause. Le temps pour nous aussi d'accueillir nos invités qui vont nous rejoindre, Pierre Nesman et Angèle Ferremac. On va leur demander s'ils sont des adeptes du cashback. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
En ce samedi matin, vous allez encore apprendre plein de choses et devenir des consommateurs plus avertis grâce à Nous Voilà Bien et grâce à nos invités. On accueille Pierre Nesman. Bonjour Pierre.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Vous êtes paysagiste et vous êtes rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. Et avec vous, on va parler justement du langage, des fleurs. Et dis donc, vous êtes venu les mains vides, vous charriez.
Oui,
vous,
parce que je voulais éviter tout compromis, enfin tout malentendu avec vous. Mais mon cœur est chargé de fleurs, je ne vous dirai ni la couleur, ni le type de fleurs.
Et puis on aurait pu faire aussi à un moment donné concurrence avec Angèle Ferremac. Bonjour Angèle.
Bonjour tout le monde.
Tu le voulais, hein, ton bouquet. Ben non, il était pour moi.
Ben voilà.
Angèle, vous êtes chef et naturopathe. Vous êtes notre invité. On va parler avec vous des quiches. Et on écoute évidemment religieusement Hervé Cabibot, qui est journaliste à 60 millions de consommateurs. Alors Hervé, aujourd'hui vous nous parlez du cashback. Donc je viens d'accueillir nos invités qui vont poursuivre nos conversations dans Nous Voilà Bien, Pierre Nesman et Angèle Ferremac. Je vais me tourner vers vous d'abord. Angèle, ça vous parle le cashback ou pas?
Mais moi Flavie, je suis très contente qu'on soit ensemble, qu'on ait loupé sur le quai, qu'on ait loupé le train de la fortune, du cashback. Moi c'est comme la crypto-monnaie, etc. Je ne comprends rien.
Voilà, ça vous échappe.
J'ai l'impression d'être à la masse.
Alors que c'est super simple, vous allez voir. Et vous Pierre?
Eh ben pareil. Oui, effectivement, je suis très attentif.
Attends. Mais Hervé, vous avez quel âge, vous ?
J'ai 57 ans.
Ah, vous êtes un tout petit peu plus vieux que nous.
Ouais.
Non, mais pourquoi je vous pose la question, Hervé ? C'est que moi, mon fils, par exemple, est un adepte du cashback. Et là, ce dont on parle ce matin à nos auditeurs, c'est intéressant parce que c'est une façon, comme disait Angèle, de prendre le train d'une certaine modernité. Hein ?
Oui, c'est beaucoup les jeunes qui utilisent le cashback. Hein. En général, c'est quand on a des enfants, ils connaissent ça par cœur. Hein.
Mais voilà, c'est ça. Et moi, ils ont essayé de m'y mettre, mais c'est vrai que ça n'est pas simple. Alors, le cashback, grosso modo, c'est j'achète quelque chose sur Internet, un produit, dans une boutique qui a un partenariat avec un site de cashback. Je simplifie. Hein, et donc, à partir du moment où j'ai fait mon achat, je vais être récompensée de mon achat parce qu'on va me rétrocéder un pourcentage sur la somme que j'aurai versée. C'est ça.
C'est ça.
En fait, c'est comme si j'avais une réduc, mais 1 à 3 mois plus tard.
Voilà, c'est ça. Ça vient s'accumuler sur une cagnotte qu'on récupère.
D'accord.
3 mois.
Bon, alors, combien on peut récupérer au maximum? Parce que c'est vrai que moi, ce que je vois tomber, en général, c'est 2-3 euros et encore.
Ouais, c'est des petites sommes, hein, mais c'est difficile de dire. Un site de cashback plus intéressant qu'un autre. Hein. Les offres évoluent en permanence au gré des accords commerciaux qu'ils passent avec les anciennes. Donc, certaines opérations exclusives peuvent proposer sur une période très courte des remboursements de 20, 30%, 40% parfois.
Oui.
Voilà, les sommes récupérables, c'est vraiment en fonction du montant des achats. D'accord. Et du pourcentage de cashback prévu. Hein. Celui qui est vraiment très accro au cashback, il va aller s'inscrire sur différents sites de cashback et il va rien louper et donc récupérer des informations sur les partenariats, sur toutes ces plateformes-là.
Mais vous savez, c'est intéressant ce que vous nous dites, Hervé, je vais me tourner vers nos invités, ça me rappelle les coupons de réduction qu'il y avait quand au supermarché qu'on balançait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Oui, c'est un peu le même principe, absolument.
Voilà. Angèle.
Mais c'est ça, ça existe toujours, je crois, derrière les tickets de caisse.
Oui, c'est ça.
Moi, ça me rappelle les stations essence. J'ai l'impression qu'on accumule des points et qu'on a droit à un
vrai
petit joujou.
C'est vrai.
C'est exact,
vrai.
Effectivement.
C'est... Mais c'est le programme de fidélisation, en fait. Hein. Mmh. C'est ça, hein, Hervé, que vous nous expliquez. Il y a quelque chose quand même qui fait que je m'en méfie. Angèle, vous êtes du genre à mettre vos coordonnées bancaires sur...
Non, moi aussi, ça me fait très peur.
Voilà.
J'ai peur d'être une cible après pour des pubs, pour des mails, des textos, etc.
Ou même des fraudes.
Même des fraudes,
parce que là, il faut rentrer les coordonnées d'une carte bancaire. Alors, est-ce que c'est sécure ou est-ce qu'effectivement, quelque part, on récupère aussi nos données personnelles à mauvais escient, selon vous?
Alors, oui, les données personnels sont récupérés, bien sûr, c'est grâce aux API et aux cookies qui sont déposés sur votre ordinateur, à condition de les avoir acceptés. Les plateformes de cashback, elles suivent de près votre parcours d'achat. Oui. Elles savent exactement quel type de produit, quelle marque vous intéresse et quelles enseignes vous visitez le plus souvent. Et elles communiquent en fonction, elles vous font des offres en fonction de cela. Alors, est-ce que c'est dangereux ou pas? Non, aujourd'hui, sur ces grandes plateformes de cashback, c'est pas dangereux. Il n'y a pas de risque de piratage, mais effectivement, vous communiquez des données qui sont ensuite commercialisées. Donc, c'est beaucoup de spam, beaucoup de mails que vous recevez.
Oui, donc c'est quand même très chiant. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Dernière question, pourquoi est-ce qu'il faut se méfier du cashback par abonnement?
On a tous été confrontés à une proposition de cashback par abonnement sans que ce terme ait été inscrit dans la proposition. Ça survient, vous savez, quand on a finalisé un achat sur un site internet. Il y a une fenêtre pop-up qui apparaît et qui vous informe que vous pouvez obtenir un remboursement de 10, 15 ou 20 euros qui correspond à un pourcentage de la somme que vous venez de dépenser. Si vous acceptez cette proposition, vous devrez remplir un formulaire pour valider le remboursement.
Voilà.
Et vous validerez aussi, par la même occasion, un abonnement au service.
Voilà.
Dans ce cas, vous bénéficiez des offres de cashback de la plateforme, c'est sûr, mais vous serez prélevé d'un abonnement mensuel. C'est pas illégal, hein, mais c'est pas toujours formulé ainsi. De façon très explicite, c'est marqué, vous savez, en bas, en tout petit, et c'est pour cela que la méfiance est de mise. Mais bon, certains y trouvent leur compte, hein. Nous avons un lecteur qui nous a raconté de payer 18 euros par mois, mais quand même qui a accumulé 1800 euros de cagnotte.
Oh, c'est
pas sur quelle période, hein.
Oui, c'est
mais
ça.
Bon, ce système d'abonnement, il est quand même fait pour des acheteurs compulsifs.
Voilà, c'est de ça dont je me méfie, moi. C'est ces fameuses petites fenêtres qui débarquent en me disant, tiens, tu viens d'acheter ça, mais on peut te rendre ça. Et heureusement, je ne suis pas tombée dans le panneau, comme quoi, effectivement, il faut être méfiant et il faut lire 60 millions de consommateurs. Merci beaucoup, Hervé Cabibo, pour toutes ces informations. Vous connaissez le langage des fleurs, Hervé ?
Ah oui.
Ah oui, vous savez parler avec les fleurs, parce que c'est Pierre Nesman qui va nous raconter ça dans un instant.
Ah ben, je vais écouter ça avec la.
Restez à notre écoute. Salut Hervé et à bientôt sur RTL.
Au revoir.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
C'est à vous, Pierre Nesman.
Bonjour.
Vous parlez le langage des fleurs. Vous voyez un peu ces deux femmes dans ce studio qui vous jettent des regards comme
et oui,
ça,
je
qui
sais
roulent.
Bien, mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait exprès de venir sans fleurs parce que je ne voulais pas commettre ni d'impair, ni créer des jalousies. Donc au moins comme ça.
Très bien. Ouais, tu parles.
On se serait créé un chignon, Flavie, c'est sûr.
On se serait frappé, on se serait battu. Alors, le langage des fleurs. Je cite votre dernier livre. Mon jardin s'adapte au changement climatique chez Delachaux-Niesley. Ça veut dire aussi que pour parler le langage des fleurs, il faut s'adapter aux saisons.
Exactement.
Ça, c'est important de
vous
le
avez,
dire.
Effectivement, et ça, on en parle beaucoup actuellement, de choisir des fleurs françaises, de production française
exactement.
Et de saison. C'est vrai que les tulipes, le mimosa est en fleur actuellement, les jacinthes. Donc, c'est vraiment des fleurs qu'il faut choisir aujourd'hui plutôt que d'aller vers d'autres fleurs qui viennent de beaucoup plus loin.
Allez, on y va. Quelles sont les fleurs avec lesquelles on parle? La rose, évidemment.
La rose, évidemment, c'est le symbole de l'amour et de la passion. Alors, il faut faire attention parce que la rose, évidemment, il y a le symbole de la rose, la fleur, mais il y a aussi la couleur qui va jouer. Et
alors,
en fonction de la couleur, on va effectivement traduire des sentiments.
Alors avant de nous dire, vous connaissez vous Angèle ou pas?
Ah non, je connais pas bien, je sais qu'il vaut mieux éviter le jaune, je crois.
Alors
le
moi
rouge,
aussi,
c'est la passion, oui. Ce genre
moi
de
aussi.
Oui.
Alors moi, ça, mes roses préférées sont les blanches, vous Angèle?
Moi, c'est les roses très très pâles.
D'accord.
De jardin.
Et c'est vrai que là, toutes les deux, on sait qu'il faut éviter le jaune, je ne sais pas pourquoi.
Ouais. Alors le jaune, oui, c'est le signe de l'infidélité.
Ah,
l'infidélité. Donc c'est vraiment une fleur, effectivement, qui est pas très appréciée. Il faut faire attention à qui on l'offre, c'est une jolie couleur, mais
il y en a des
faut
si
faire
jolies.
Attention à qui on l'offre, effectivement.
Seulement aux gens qu'on
voilà, exactement.
Voilà, ou pour transmettre quelque chose qui va arriver. Le jaune aussi est une couleur qui est redoutée par certaines catégories de métiers, notamment les comédiens, les acteurs. N'aiment pas la couleur verte, mais n'aiment pas non plus la couleur jaune, justement, parce qu'il y a cet aspect-là.
Ah ouais, d'accord, donc c'est bon à savoir.
Il faut
quand
faire
on
attention.
Voit des fleurs
ouais.
À un pote qui est au théâtre, parce que là, on sait qu'effectivement, ça peut craindre. Qu'est-ce qui vous arrive, Angèle?
Rien
vous
du tout, j'étais trop
dans
sur
ce
ma
studio.
Chaise, je n'arrive pas à la baisser.
Voilà, installez-vous bien. Alors, le blanc, pourquoi moi j'aime le blanc?
C'est le signe de la naissance, la virginité, le lien amical, un début de lien amical. Voilà, le lien fort et respectueux.
D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme couleur?
Alors, on a le rose. On parlait tout à l'heure, Angèle, du rose, ça évoque la tendresse, l'attention délicate. Le rouge vif traduit effectivement le sentiment amoureux, la passion. Lorsqu'on est dans le jaune, on en a parlé, on évite le jaune. Et puis l'orange, c'est une passion tumultueuse. On va raviver sa flamme lorsqu'on offre des roses de couleur orange.
D'accord, mais la symbolique de la couleur, ça n'a d'importance pense que pour la rose ou pour d'autres fleurs?
C'est pour toutes les fleurs, parce qu'effectivement, ça va soit renforcer ce sentiment, ce langage des fleurs, et ça peut aussi le neutraliser, voire éventuellement complètement le ruiner.
D'accord.
Donc il faut faire attention, le choix de la plante et le choix de la couleur.
Une question, donc, Pierre, j'ai reçu un gros bouquet de mimosa jaune pour la Saint-Valentin. Est-ce que ça veut dire que je dois faire attention
à
mes arrières?
Je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer, parce que le jaune, il y a effectivement cette signification de la fidélité, mais il y a aussi un autre lien, c'est l'amour et l'amitié. Donc, quelque part, on peut aussi bien interpréter la couleur jaune.
Ah, mais moi, je trouve que le plus beau des amours, c'est celui où il y a de l'amitié. Quand notre amour est notre meilleur ami, je trouve que là, on a touché le Graal. Enfin, bon, bref, on va se retrouver dans un instant pour poursuivre notre conversation autour du langage des fleurs. Et alors, je dois quand même confesser à nos auditeurs que j'en suis à la moitié de votre quiche. Angèle Ferremac, puisque ce sera notre sujet de fin d'émission. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Une émission ce matin très fleurie et très gourmande. Voilà, je vais résumer ça comme ça. Dans un instant, on va parler avec Angèle Ferremac des quiches. Mais pour l'instant, Angèle, on parle des fleurs avec vous, Pierre Nesman. Dites donc, mon petit Pierre, vous nous informez ce matin de la symbolique et des fleurs et des couleurs. Alors, on a bien compris que le jaune, c'était le signe de l'amitié. Bon, très bien, ça maintenant, je pense que c'est rentré dans l'esprit de tout le monde. Je voudrais qu'on parle du nombre aussi de fleurs.
Ça, c'est très important.
Parce qu'il paraît que les roses, en fait, mais ça vaut peut-être pour toutes les fleurs, il faut les offrir en nombre impair.
Alors, toujours les fleurs en nombre impair. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus élégant.
Je trouve aussi.
Quand vous offrez une fleur, elle est unique. Quand vous en offrez deux, on ne sait pas très bien laquelle est la plus importante. Est-ce qu'il faut les mettre ensemble, l'une sur l'autre, l'une à côté de l'autre, etc. Et dès qu'on retombe à 3, 5 ou 7, on a un nombre impair qui crée une sorte d'harmonie. C'est valable pour le bouquet, c'est aussi valable au jardin.
Angèle ?
Mais d'ailleurs, même visuellement, quand on prend en photo une recette de cuisine, on ne met jamais 2 assiettes ou 4 assiettes. C'est toujours impair aussi.
Oui,
c'est plus joli toujours.
C'est vrai qu'il y a une sorte d'imperfection, quelque
Absolument.
Part, dans le nombre impair qui est plus élégante.
Donc on va choisir une fleur, ça c'est le symbole unique, c'est exceptionnel. Vous êtes unique, vous êtes remarquable.
Ah, c'est ça, c'est
radin.
Ça,
une seule fleur.
Ou alors tu es radin, oui, c'est ça.
Non.
D'accord.
Et deux, on évite. Ensuite, on va passer à 3, 5 ou 9. On est toujours dans des harmonies, on est dans des choses très harmonieuses. Et puis ensuite, on passe à un nombre pair qui est la douzaine, 12 fleurs. Et ça, c'est le symbole du remerciement. Lorsqu'on remercie quelqu'un après une invitation à déjeuner, c'est 12 fleurs. Parce qu'en fait, on n'arrive pas très bien à compter. On n'est pas dans un nombre impair, mais on n'arrive pas. Est-ce qu'il y en a 10, 11, est-ce qu'il y en a plus? Et alors, il y a un chiffre qu'on évite.
Bah, j'allais vous le dire, c'est le 13, mais c'est impair.
Surtout, ne pas offrir un nombre 13 de nombre de fleurs. Et puis après, on passe à 15. Et à 15, eh bien là, c'est vraiment un bouquet qui est extrêmement généreux, qui généralement va symboliser la réconciliation. Donc on offre un bouquet à quelqu'un à qui on souhaite se réconcilier, ou en tout cas rétablir le contact. Et là, on aura 15 fleurs.
Vous savez ce que j'aime faire ? J'aime offrir des fleurs aux hommes. Je trouve ça très beau. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas offrir des fleurs à ces messieurs. Et je trouve ça très élégant. Est-ce qu'il y a des fleurs pour chaque sexe ? Je sais pas.
Non, en fait, on va offrir des fleurs à tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Flavie, les choses sont en train d'évoluer. Traditionnellement, les hommes offraient des fleurs aux femmes. Et puis, aux hommes, on offrait plutôt une bouteille de vin ou une boîte de chocolat. Là, aujourd'hui, on est en train de casser ces codes. Et effectivement, vous avez des femmes qui offrent des fleurs aux hommes. Vous avez des hommes qui offrent des fleurs aux hommes, évidemment, des femmes aux femmes, etc. Donc aujourd'hui, on est vraiment en train de casser complètement tous ces codes.
Moi, j'aime bien les fleurs des champs. Les fleurs champêtres, de la campagne, je dirais. On n'a pas tous les mêmes goûts. Ça a une signification, ça, Pierre ?
Oui, alors effectivement, on a des fleurs un peu horticoles, et puis après, on a des fleurs plus champêtres. Alors, aujourd'hui, dans les fleurs champêtres qu'on va trouver, il va y avoir le myosotis, enfin, d'ici quelques semaines, quand il va commencer à fleurir. Le myosotis symbolise « ne m'oubliez pas ». On va trouver aussi dans les prés des primes verts, les premières primes verts.
J'adore.
Alors, c'est l'espoir d'un amour réciproque, la jacinthe aussi, qu'on trouve beaucoup chez les fleuristes actuellement, qui évoque l'amitié, mais qu'on souhaite faire évoluer vers de l'amour. On parlait tout à l'heure des mimosas, effectivement, et donc le mimosa en fleurs, ça traduit aussi un amour secret. Donc le jaune, évidemment, on a vu que ça pouvait être interprété...
C'est pas très secret, elle arrête pas de faire des bébés.
Des sentiments que l'on n'oublie pas. Et puis effectivement, après, ça c'est pour les fleurs de printemps, puis après on a plein de fleurs en été, comme le souci, je me languis de vous, la marguerite, on effleure la marguerite, qui évoque l'innocence. Attention au tournesol. Le tournesol, c'est une fleur qui est grande, grande, puissante, solitaire, et qui évoque un peu le côté solitaire, un peu l'orgueil, l'arrogance. Donc attention. Et vous n'avez remarqué qu'elles...
Elles puent. Elles sont mauvaises.
Bon,
alors, franchement, le tournesol dans une cuisine, moi je trouve ça très joli, mais alors je trouve que c'est très puissant, vous êtes d'accord?
Absolument. Donc en raison de plus pour ne pas l'offrir.
Les pivoines.
Ça c'est les préférés, préférés de nos mamans, de nos grand-mères. On va pouvoir
faire... Merci.
On va pouvoir faire... Mais non, mais c'est vrai.
C'est sympa, d'accord.
C'est pour nos
Non, mais on est d'accord, c'est pour bientôt. Tous, hein,
voilà.
Ceux qui ne comprennent pas le cashback.
Voilà. C'est une fleur qui va délivrer toutes sortes de messages et qui va aussi délivrer des messages en fonction de sa couleur. Le blanc, prenez soin de vous. Le rouge clair, mon amour, je veille sur vous. Et le rose, comptez sur moi. Comptez sur ma présence et mon attention.
Et le lilas. Alors ça, le lilas. En plus, je trouve que le parfum du lilas est tellement délicat.
Ça, c'est une vraie merveille. Eh bien, ça veut dire, c'était la fleur des amoureux. C'est quand on offre un bouquet de lilas, c'est qu'il y a des fiançailles en vue, ou en tout cas qu'on a cette intention-là. Ça veut dire aimons-nous. Donc c'est
très
assez
bien.
Engageant.
C'est
et c'est pour bientôt les lilas, courant du mois d'avril.
Exactement. Et on les attend avec impatience. Des questions, Angèle ?
Non, moi j'adore aussi les fleurs de pavot. Je trouve que les renoncules, je trouve que la tige des fleurs de pavot, on dirait presque des insectes. Je trouve ça vraiment magnifique.
Alors attention, tout ce qui est pavot, coquelicot, le pavot c'est la surprise et tentation dangereuse. Attention. Et puis le coquelicot, c'est aimons-nous vite, dépêchons-nous. Ardeur fragile, il y a l'urgence. Hein, c'est une fleur qui passe très très vite.
Et dites-moi, dernière question, il y a une fleur pour rompre? Parce que là, il n'y a que des fleurs pour faire passer des messages vraiment sympathiques. Mais est-ce qu'il y a des fleurs pour des ruptures ou pour des sentiments un peu orageux?
Alors, effectivement, lorsqu'on veut rompre, quand on veut amorcer quelque chose dans ce sens-là, mon cœur balance, c'est le laurier rose.
Ah,
alors ça, c'est mon cœur balance. Et puis, on reparlait du jaune tout à l'heure. Offrir un bouquet jaune, ça a une signification. Alors, pardon Angèle, mais ça a une signification qui peut être traduite comme trahison, infidélité. Donc, ça peut signifier quelque chose.
Merci beaucoup, Pierre. Vous restez avec nous parce que vous êtes un gourmand et que vous savez que dans un instant, on va manger de la quiche. Voilà. Et son langage à elle, c'est le langage avec les légumes et les fruits.
Et
c'est
oui.
quand même magnifique. Moi, je trouve ça beau, le langage de la cuisine.
Mais la quiche, c'est une insulte.
Allez, hop là. À tout de suite dans Nous voilà bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Elle est bonne, ta quiche, amour. Mon cœur, passe-moi la salade.
Angèle Ferremac. On mange des fleurs aussi, dites donc.
Mais oui, moi j'adore mettre des fleurs sur mes petits plats et je mets souvent des fleurs de pensée. Il y a beaucoup de fleurs comestibles, mais la fleur de pensée, je trouve ça joli de mettre des pensées. J'espère qu'elles n'ont pas de signification.
Non, justement, la pensée, comme son nom l'indique, pensez à moi, rappelez-vous de moi. Donc c'est plutôt charmant et plutôt sympathique.
Dites-moi, les fleurs qui se mangent, Pierre Nesman, ne sont pas les fleurs de notre jardin. Il faut peut-être faire attention quand même et en profiter pour faire passer un message, non?
Non, non, non. En fait, il ne faut pas utiliser des fleurs qui soient traitées ou en tout cas qui soient dans un environnement pollué, mais quand on est dans un jardin à la campagne, il n'y a pas de risque. Évidemment,
ah
au milieu urbain, c'est un peu plus
compliqué.
Ah, moi
j'aurais trop peur.
Non, 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 vous pouvez les consommer. Alors évidemment, si vous êtes au bord d'une ligne d'aéroport ou si vous êtes effectivement dans un champ avec des traitements phytosanitaires, il faut éviter. Mais en général, voilà.
Mais il y a des fleurs dangereuses qui peuvent être dangereuses.
Oui, après, il y a des fleurs toxiques, effectivement.
Alors, attention.
Ça, c'est autre chose. Effectivement, on parlait tout à l'heure du laurier rose qui est effectivement toxique. On parle du muguet aussi. Très prochainement, il va y avoir le muguet. Ça, c'est aussi une fleur qui est toxique. Donc là, il faut faire effectivement attention. Ouais.
D'accord, il faut chercher la liste des fleurs toxiques pour ne pas les utiliser en cuisine. Bon, on n'est pas là pour parler que de fleurs, hein. On est là pour parler de quiche, ma bonne dame. Alors, vous êtes créatrice de la guinguette d'Angèle. Vous êtes venue évidemment avec une délicieuse quiche. Vous en faites, vous en proposez, vous d'ailleurs, parce que la quiche, c'est pas simplement parce qu'on a des enfants et que le soir, on ne sait pas quoi faire. Hein.
Non, la quiche, ça peut être assez sympa, en fait. C'est vrai que ça a une réputation un peu tarte. parce que c'est très facile, parce que c'est mou, parce que c'est très populaire. Etc. Mais en fait, on peut faire plein de quiches différentes et c'est assez sympa sur les buffets, à partager pour faire un dîner rapide ou même un déjeuner sur le pouce au travail.
Mais il n'y a pas que la quiche Lorraine dans la vie.
Il y a plein d'autres quiches.
Oui, c'est ça.
Il y a plein
de
surprises.
On peut être créatif. C'est quoi la base en fait? C'est la pâte?
Alors la base, déjà c'est très très vieux en fait. Bah, ça date il y a super longtemps, la quiche ça date du Moyen-Âge. D'ailleurs le mot quiche c'est une adaptation de l'alsacien Küche et du mot allemand Kitchen qui veut dire gâteau. Mm-hmm. Et donc ça daterait du Moyen-Âge. C'est le duc de Lorraine qui adorait la quiche, qui en avait souvent à table. Et donc la base c'est simplement une pâte brisée Donc à l'époque, c'était une pâte à pain, mais ça a été un petit peu transformé depuis, avec une, donc ce qu'on appelle en Lorraine la migaine. Et nous, ce qu'on appelle dans le jargon culinaire, l'appareil. Donc c'est un mélange d'œufs et de crème dessus. C'est très simple.
On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous donner évidemment des recettes. Angèle Ferremagde, à tout de suite dans Nous Voilà Bien.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Bon, maintenant qu'on sait que le cashback existe, on va essayer de s'y mettre en écoutant bien les conseils d'Hervé Cabibot. C'était donc en début d'émission. Maintenant que l'on sait qu'il ne faut pas envoyer des fleurs jaunes, ou alors pour dire « chérie, je t'aime, mais je te trompe », on va passer désormais donc à la gourmandise avec Angèle Ferremagde. On parle des quiches.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Alors, c'est vieux comme mes robes, les quiches, c'est très simple. Avant, c'était avec de la pâte à pain, maintenant, c'est avec de la pâte brisée, Angèle, si j'ai bien retenu, avec donc ce que l'on appelle
l'appareil,
donc c'est-à-dire des œufs et une garniture. Voilà.
Exactement,
grosso modo, c'est
des œufs, de la crème et une garniture.
Bon, alors déjà, les conseils de base pour faire une bonne quiche.
Alors, les conseils de base, je dirais, c'est de choisir des bons produits, parce que là, c'est tellement simple, on en a très peu des produits, alors vraiment les choisir de bonne qualité. Par exemple, ne pas acheter sa pâte brisée déjà faite. Je sais que ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais
je
ne
sais même pas faire une pâte brisée.
Mais ça n'a rien à voir. Une pâte brisée, c'est très simple. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a une sorte de complexe de faire sa pâte Alors qu'en fait, c'est d'une simplicité folle. Déjà, pour retenir, c'est le double de farine que de beurre. Et après, on a juste la consistance avec un petit peu d'eau. C'est tout. C'est
très, très simple. Je prends du beurre fondu, de la farine, je mélange le tout et j'ai ma pâte.
À température ambiante, par exemple, 300 g de farine, 150 g de beurre, on mélange, donc ou au robot ou à la main. Ensuite, on ajuste avec un petit peu d'eau. Donc, par exemple, pour 300 g de farine, 150 g de beurre, je mettrai un peu moins d'un demi-verre d'eau. Je mélange bien. Faut pas que la pâte soit trop molle ni trop cassante. Et ensuite, je la mets dans un film et je la mets au frigidaire. Oh. Et ça, c'est une pâte que je peux garder une semaine. Je pourrais faire des tartes tatin, des quiches, des tartes sucrées, des tartes salées, etc. C'est très simple. Et en fait, il y a une sorte de complexe de la pâte à tarte, alors que vraiment la faire chez soi, c'est hyper facile.
Vous saviez ça, Pierre Messmann?
Moi, en fait, je les achète un peu comme vous, Flavie.
Oui,
par contre, j'ai mon fils qui s'amuse à les faire. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence.
Ça change tout.
Ah bah, celle que vous nous avez apportée est délicieuse ce matin.
En plus, ce sera plus sain. Moins cher, et on pourra rajouter plein de trucs dedans. Par exemple, des graines de pavot, du parmesan, des graines de tournesol.
Dans la pâte.
Dans la pâte, ça va apporter un petit côté un peu croquant ou un peu différent des graines de lin.
Bon.
Et nutritionnellement, c'est beaucoup plus intéressant.
Alors, donc, j'ai fait ma pâte.
Admettons. Hein. J'ai fait ma pâte, je la laisse un petit peu au frigidaire.
Ok.
Ensuite, je vais enfariner sur mon plan de travail. Je vais mettre un petit peu de farine. Je vais étaler ma pâte. Et là, l'autre secret de la quiche, et d'ailleurs, je dirais pour la plupart des tartes, c'est de la faire cuire à blanc, c'est-à-dire sans rien dedans. Donc, on préchauffe le four à 200 degrés, on étale bien notre pâte à l'aide du rouleau, on peut la mettre dans le moule. C'est pas la peine de beurrer le moule pour la quiche.
D'accord.
Non, la pâte brisée, en fait, se démoule assez facilement. Ensuite, grâce à mon rouleau à pâtisserie, je vais couper les bords, c'est assez facile. Le moule va servir de couteau. Je l'enfourne, je mets évidemment des petits coups de fourchette,
parce
qu'elle peut, elle peut gonfler. Je la mets au four, 10 minutes à 200 degrés. Et là, donc, en fait, ma pâte est pré-cuite. Donc déjà, ça va éviter que le bas soit trop mou ou pas cuit ou que ça dégorge, etc. Ça, c'est déjà un point super important, pré-cuire le fond de pâte.
Alors, comment je fais après ma
migaine?
Comment je fais ma migaine?
Alors, la migaine...
Il faut que j'ai des œufs.
Voilà.
Bio, la migaine, de préférence.
C'est évidemment, si on peut choisir des produits bio, parce que la crème, les œufs, c'est quand même des produits animaux, ça ne coûte pas tellement plus cher quand c'est bio et c'est tellement meilleur. Donc, je vais prendre 6 œufs, 500 centilitres de crème. Alors, si comme moi, vous avez du mal à convertir, ça fait à peu près 500 grammes.
D'accord.
Donc, je mélange les œufs et la crème. Alors, je vais mélanger au fouet ou à la fourchette jusqu'à ce qu'on brise les grumeaux et que ça fasse un mélange un peu harmonieux. Là, je peux rajouter un peu de muscade. Alors après, on peut faire ce qu'on veut dans les quiches, etc. Mais si on fait une quiche à un Lorrain, une quiche Lorraine, on mettra pas de fromage, on mettra pas de poireaux, on mettra pas de jambon, ce sera du lard et de la crème et des œufs et basta.
D'accord.
Rien d'autre.
Okay.
Attention. C'est pigé.
C'est vraiment très important.
Ça, c'est pour la Lorraine. Et pour le reste, après, je peux m'amuser.
Mais ce que vous voulez. Moi, j'adore mettre plein de trucs différents, vraiment m'éclater. On peut les faire avec tous les légumes de saison. On peut les faire avec les restes de la veille. On peut le faire avec du tofu fumé. On peut le faire avec du poulet. On peut le faire avec des salades. On peut le faire, par exemple, l'été, petits pois, menthe, courgette.
Vraiment, je mets ce que je veux dans mes œufs.
Ah, mais on met ce qu'on veut dans sa préparation.
Mais là, par exemple, celle que vous nous avez apportée aujourd'hui, je vous ai demandé s'il y avait des fruits dedans, parce qu'elle est absolument délicieuse. Vous souscrivez
absolument
à ce que je dis, hein,
oui,
Pierre Nesman. De toute façon, vrai. Pierre, à chaque fois qu'il voit Angèle, il mange, il est content.
Moi, c'est tout ça,
mais non, mais c'est
ça.
Encore, Pierre. Non, mais j'ai trouvé qu'il y avait un goût sucré. Et en fait, vous m'avez dit, mais non, j'ai mis du potimarron.
Exactement. Ça, c'est. Bah, en ce moment, il y a plein de potimarron, il y a encore plein de courges. Donc,
mais les légumes, vous les avez déjà pré-cuits ou...
Mais j'ai utilisé mes restes, Flavie, pour vous.
Écoutez, c'est délicieux. Non, mais donc ça veut dire quand même que les légumes, il faut les pré-cuire.
Oui, moi je conseille de les pré-cuire. Après, ça dépend des légumes. Par exemple, les courgettes, si on les coupe très très finement, ce ne sera pas la peine de les pré-cuire parce qu'elles seront très bonnes al dente. Comme les petits pois, quand ils sont bien frais, on ne les fait pas cuire avant, on ne veut pas qu'ils soient trop
d'accord,
cuits.
D'accord, ok.
Mais la courge, on n'a pas envie qu'elle soit croquante.
D'accord, ok. Donc ça veut dire que là, la courge, elle est pré-cuite. Donc il faut choisir.
Donc là, en même temps, en fait, par exemple, que je mets mon fond de tarte à cuire, j'aurais pu mettre mes potimarrons finement vidés, lavés, finement coupés, avec un petit peu de sirop d'érable ou de miel. Je le mets au four en même temps que mon fond de tarte. Pendant ce temps-là, je prépare ma migaine. Et ensuite, dans mon fond de tarte, j'ai mis une poignée de roquettes. J'ai versé ma préparation dessus, j'ai mis mes potimarrons et même un peu de feta. Parce que la feta chaude, la feta en tarte, etc., c'est délicieux.
Mais ça veut dire que ce fromage, cette feta que vous avez rajoutée, vous l'avez rajoutée sur la migaine, mais sans la mélanger.
Sans
c'est
la mélanger.
Donc en fait, il ne faut pas hésiter à jouer avec les textures, c'est ça.
Exactement.
Que j'entends.
Exactement, parce que esthétiquement, c'est plus joli quand elle est au-dessus et qu'en plus, elle va être un petit peu plus sèche, un petit peu plus fondante que si elle est perdue dedans. Mais on peut vraiment, vraiment se.
Mais je peux tout mettre. Des quiches sucrées.
On peut complètement faire des quiches sucrées. En fait, la base n'est pas forcément salée si on ne rajoute pas de sel dans la pâte. Et on peut faire des quiches. En fait, ça va ressembler un peu à des clafoutis, à des tartes. Alors l'été, on pourra mettre des fruits rouges. Là, on peut mettre des poires et du chocolat. Enfin, on peut vraiment. Vraiment se lâcher de la quiche.
Il faut se lâcher carrément de la quiche. On peut mettre des épices, on peut mettre des herbes. On fait absolument ce qu'on veut. On tente, on essaye et on se lâche. Maintenant, il y a quand même des questions qui me viennent à l'esprit parce que vous avez déjà fait des quiches, j'imagine.
Oui.
Bon, vous avez rencontré des problématiques ou pas?
Moi, c'est effectivement le truc de la cuisson, la pré-cuisson. Ça, je vais le faire. Je ne le faisais jamais. C'est vrai que c'est très indigeste.
Et pourquoi
indigeste.
Ça veut dire qu'en fait, votre pâte était imbibée de.
Elle n'est pas cuite, quoi.
C'est ça. Moi, j'ai un problème de flotte, en fait, dans mes quiches.
Alors. Déjà, si on met des lardons dans les quiches, c'est très important de les faire cuire avant. Sinon, ils vont rendre de l'eau. Après, il y a aussi ce coup de faire pré-cuire la pâte. C'est assez important. Et sinon, il y a une autre petite technique, c'est de saupoudrer, donc avec un petit tamis, un peu de farine ou un peu de polenta dessus, si elle est vraiment trop liquide. Et dans ces cas-là, on la remettra au four. Mais en général, si on a fait pré-cuire sa pâte, il n'y a pas beaucoup de risques.
Comment je sais que ma quiche est cuite?
Alors, en fait, c'est comme un gâteau. On va mettre la pointe du couteau et il faut que la quiche, quand elle sorte, elle soit encore un peu tremblotante, chevrotante.
Donc,
faut pas s'attendre.
Voilà,
c'est ça. Faut pas s'attendre à ce qu'elle soit toute dure. Donc c'est ok si elle est un peu Alzheimer, enfin un peu Parkinson, je vais dire. Mais c'est pas grave, elle est quand même délicieuse. On mettra juste la pointe du couteau et s'il ressort, ça veut dire que les œufs ont pris.
Nickel.
Ça veut dire que les œufs ont pris. Il y a pas de souci.
Merci beaucoup, Angèle.
Avec plaisir.
C'était super intéressant. Je rappelle donc la Guinguette d'Angèle à Paris. Vous êtes en train de préparer un nouvel ouvrage. Je peux en citer un autre?
Ah bah bien sûr.
Lequel?
Il y en a, Bon, Simple et Sain. Et je donne plein de recettes sur Instagram de la Guinguette d'Angèle. Donc rejoignez-nous.
Rejoignez-les. C'est passionnant et c'est vraiment facile à faire. Merci beaucoup Angèle Ferremac. À bientôt. Merci beaucoup Pierre Nesman.
Merci.
Allez, on va vous couper une nouvelle part de quiche. Je rappelle qu'on vous retrouve donc dans Mission Végétale diffusée sur M6 et que votre dernier ouvrage, c'est Mon Jardin s'adapte au changement climatique aux éditions de Lachaud et Niestlé. Merci à vous deux. À la prochaine. C'est déjà le moment de se dire au revoir. Nous voilà bien, s'achève, mais vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui en podcast sur l'application RTL et sur tous les sites partenaires. Et la recette du jour est quant à elle disponible sur RTL.fr et la page Instagram d'Angèle Ferremac, la guinguette d'Angèle. Moi, je vous dis à lundi 20h sur RTL pour Jour J, le magazine qui dépoussière les grands événements qui nous ont frappés. Et puis samedi prochain, dès 9h15 pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end à l'écoute RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.